Bonjour, bienvenue dans On se fait des films, l'émission qui marie pour tous le cinéma et la vie. Aujourd'hui un dandy, mais un homme de cœur, un grand acteur qui admirait tant les autres qu'il n'avait plus le temps d'être admiré, Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy sorti de l'onde de la nouvelle vague, puis pendant 50 ans, surfa sur tous les courants, quitte à devenir second derrière de beaux capitaines. Première partie de la vie d'un homme qui savait autant aimer que jouer.
Guillemette Audicino, on se fait des films sur France Inter.
Ah, Martin. Entrez, mon petit Martin. Entrez.
Vous m'avez demandé, monsieur le directeur général.
Oui, dites-moi alors, la fête approche, je bouillonne, j'ai bulle. Où en sont nos travaux?
Je crois que la terrasse est à peu près finie, mais la cantine, c'est moins sûr.
Comment moins sûr?
Oui, à cause du nouvel ascenseur.
Ah, mais Saint-Martin, vous savez que je ne suis pas l'homme des incertitudes, des demi-mesures et des à peu près. Je travaille dans le concret, moi, et je veux voir ça. Nous montrons ce soir après 6 heures. Une fois éteint, une fois la ruche apaisée. Et vous n'avez pas l'air dans votre assiette, mon petit ami. Qu'est-ce qui ne va pas?
Quelques petits projets contrariés, monsieur le directeur général.
Mais bravo. Mais un jeune homme doit avoir des projets, même contrariés. Mais les projets, c'est l'avenir. C'est le point sur l'i du verbe entreprendre. J'espère qu'ils sont ambitieux, ces projets.
Ils le sont, monsieur le directeur général.
Et peut-on savoir?
Laissez-moi le loisir d'en garder le secret.
Soit. À tout à l'heure, mon petit. Ce garçon est décidément extraordinaire. Laissez-moi le loisir d'en garder le secret. Il parle en alexandrin. C'est un génie.
Il avait raison, Louis de Funès, dans Carambolage, en 1963. Plus de 160 films, de ses débuts dans les années 50 et 60, jusqu'à son décès, en 2007. Jean-Claude Brialy fut un de nos plus grands acteurs. Il débuta premier rôle, et pas dans n'importe quel cinéma, celui de la Nouvelle Vague, qui révolutionna le cinéma français. Et puis, il finit second.
Et le gagnant est... Ça y est, Jean-Claude Brialy.
D'habitude, je trouve un mot rigolo. Là, je voudrais vous dire merci à tous. Je dois dire merci à Claude Chabrol, le premier, car sans lui, je ne serais peut-être pas là. Merci à André Téchiné, qui, après 32 ans, a compris que j'étais un bon acteur. Et puis, je voudrais saluer Sandrine Bonner et mes deux jeunes camarades qui étaient dans ce film, Les Innocents. Mais un second rôle, je pense à Jules Berry, à Pierre Brasseur, à Carette, à Pierre Larquet, à Louis Salou, à Marcel Héran, qui ont été mes maîtres. Et je pense tout à l'heure, en regardant Hôtel du Nord, avec Arletty et Louis Jouvet, qui avaient des rôles secondaires, qu'il n'y a pas de petits rôles. Je vous remercie beaucoup.
On parle toujours de Jeanne Moreau, bien sûr, et de Bernadette Lafont. Mais l'égérie de la Nouvelle Vague, ce fut lui, Brialy. Il en fut l'alpha et l'oméga, présent aux prémices, à la source de la vague, jusqu'au dernier Chabrol, où il était passé second. Un second de cette trempe, avec ce physique racé, ce phrasé, cette manière de passer du léger au grave, et même à l'inquiétant, en une intonation, c'était la classe internationale. Jean-Claude Brialy pouvait passer pour l'incarnation du Parisien, élégant, mondain, avec théâtre, puis souper, entre amis comédiens. Un mondain, oui, mais plein d'amour et d'attention pour autrui. En fait, Brialy avait surtout le goût des autres.
Vous savez, par exemple, moi je passe pour quelqu'un de... On le dit, hein, parisien...
Mais vous le dites tellement qu'on n'y croit plus.
Non,
vous
bah
le dites
trop. J'espère. Mais en tous les cas, que quelqu'un comme ça, qui est un peu comme ça, snob, froid, je ne sais pas, élégant, enfin bon, distant, voilà. Eh bien, c'est mon bonheur, la concierge, le chauffeur de taxi, la marchande de quatre saisons, la marchande de journaux. Ça m'a fait, par exemple, une chose très bizarre. Un jour, je revenais des Buttes-Chaumont et Paul Meurice venait de mourir. J'aimais beaucoup Paul Meurice, qui m'appelait fiston, et moi je l'appelais papa, et c'est quelqu'un qui avait une grande pudeur et une grande... Bon. Et la mort de Paul Meurice a été ressentie très profondément, d'abord dans notre métier, mais aussi dans le public. Alors que celle de Gabin était une mort d'un ami populaire, qui était adoré. Mais Paul Meurice, on aurait pu penser qu'il était moins aimé. Eh bien, j'étais très touché. Et cette femme qui vendait les journaux, elle m'a tendu le journal en me disant « Ah, voilà encore un grand qui s'en va ». Et elle était très émue. Eh bien, ce sont par des petits signes, pareil, qu'on se rend compte que, quelque part, on vous aime, on vous fait confiance. Ou une dame qui m'a dit un jour, en parlant d'Elvire Popesco, j'ai dit « Mais pourquoi vous allez voir Madame Popesco? Expliquez-moi au théâtre ». Parce qu'elle me dit « Moi, elle peut jouer n'importe quoi, j'y vais. Pourquoi ?» Elle m'a dit « Parce qu'elle ne triche jamais. »
Jamais.
Vous savez, c'est émouvant pour un acteur qui était justement le fils d'une petite famille comme ça, bourgeoise, de savoir qu'on vous appelle Jean-Claude au Mexique, au Brésil, en Australie.
Ça fait chaud au cœur.
Ah oui, moi je trouve ça formidable.
L'arbre généalogique de Jean-Claude Brialy sent bon le terroir. Et son enfance, les épices d'Algérie. Son père était né dans le Morbihan, puis s'installa en Anjou. Militaire de carrière, il fut muté dans un village proche d'Alger, y emmenant sa jeune épouse. C'est là que le 30 mars 1933 naquit Jean-Claude, un bébé très laid, suivi 2 ans plus tard de son frère Jacques.
Moi, quand je suis né en Algérie en 1933, j'y suis resté jusqu'en 1943, donc pendant 10 ans, j'ai eu le temps... enfant, vous savez, on s'imprègne des couleurs, des senteurs, des lumières et de la vie quotidienne. Et j'ai été très marqué par l'Algérie. D'abord, je parle beaucoup, donc je dois avoir quelque chose des gènes des conteurs là-bas sur les places publiques. Et puis, cette façon d'aimer la mer, le soleil, les fruits, les oranges ou les citrons ou les mandariniers, l'odeur du jasmin, une odeur que j'aime particulièrement, l'huile d'olive, tout ça, les cacahuètes, enfin, le couscous, enfin, tout ce qui est attrait au pays reste pour moi très important.
Incredible guy, but I got some incredibly edible eyes, big and bad enough to end a little life like yours. So go finish up your chores. Go finish up your chores. Villain, you look bored. Grows and twilight goes with nimble toes. The crops and rows designed to know the mortal dose of right and rose. For all the schmoes can't read the prose, just watching shows. Don't catch the throes, don't examine their lives or ever gaze in the fire. And if you're living a lie, you can't be feeling so fine. Cause real folks must hide. Cause so much in this world is fear and money, power and control and pride.
William, the villain, Uncle Bill goes hi-fi.
Guillemette Audicino. On se fait des films sur France Inter.
On se fait des films avec Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy, qui est encore un tout petit garçon en Algérie. Et sa première émotion artistique n'est pas faite pour nous déplaire. La radio, qui, dans la salle à manger, diffuse les chansons de Tino Rossi ou Maurice Chevalier. Côté planche, le petit Jean-Claude est précoce, puisqu'il a 5 ans, lors de son premier spectacle pour la fête des écoles à Alger. On le laisse vous raconter ce premier rôle sur les planches assez insolite, car pour les anecdotes, Brialy était champion du monde.
Et puis j'ai débuté à Alger à 5 ans, dans la fête des écoles, où je jouais à une perle. C'est-à-dire qu'il y avait 8 petits-enfants qui étaient sur la scène, dans des boîtes en carton qui faisaient des huîtres, peintes, et avec un fil, on tirait les coquilles, et sortait de ces coquilles 4 petites filles et 4 petits garçons. Et nous dansions, là, il y avait une dame assez âgée qui était couchée sur le piano, le chignon un peu en bataille, et qui essayait de donner du rythme à ses petits-enfants désordonnés. Et puis, on devait saluer et partir. Alors, on a salué, j'ai poussé les autres, je suis allé saluer tout seul.
Déjà,
le rideau est tombé, je suis resté devant et je lui ai envoyé des baisers à tout va, et on a dû me tirer, j'ai pris une fessée parce que je voulais pas partir. Donc déjà, j'avais brûlé les planches à ma façon.
À 5 ans aussi, Jean-Claude tombe amoureux d'une princesse.
C'est en Algérie que j'ai découvert le cinéma. J'avais 5 ans, j'ai été voir Blanche-Neige. Et j'étais absolument foudroyé de bonheur. D'abord, j'étais amoureux, bien sûr, de Blanche-Neige. J'ai quitté la main de ma mère pour aller à la porte du cinéma pour voir les nains.
Oui, pour attendre les acteurs.
Alors, on m'a expliqué que c'était des images qui étaient projetées, que c'était une espèce de paradis comme ça. Alors j'ai tout de suite compris que c'était là qu'il fallait que j'aille.
Son père est promu capitaine et nommé à Blida, surnommé la Petite Rose. Il y en a d'ailleurs dans le jardin de la petite villa de la famille Brialy. Alors que son frère cadet est un enfant sage et calme, Jean-Claude ne cesse de bouger, de faire le zouave, le guignol. Et son père, du genre ami donné et contrarié de nature, ne cesse de lui ordonner de cesser de faire le singe. On passe sur son enfance marquée à la fois par son envie d'exister, les nombreux déménagements, d'abord d'Algérie en France, puis de ville en ville, au rythme des mutations de son père militaire, mais marquée surtout par le manque d'amour et de dialogue avec ses parents. Son père, qui veut que Jean-Claude fasse carrière dans l'armée, et le fait entrer en 1946 au Prytané National Militaire de la Flèche, dans la Sarthe. S'il y a bien un titre de Sacha Guitry qui sonne faux ici, c'est « Mon père avait raison », même si Brialy mettra en scène la pièce, presque 50 ans plus tard, dans son propre théâtre parisien, Les Bouffes Parisiens. Paris, justement, et enfin. C'est en novembre 1954 que le jeune homme, définitivement fâché avec ses parents, débarque à la capitale. Il n'y connaît quasiment personne, mais avec Brialy, cela ne veut rien dire.
Vous savez, quand on a 20 ans, qu'on est fils de militaire, qu'on n'a jamais été à Paris de sa vie, qu'on croit qu'à Paris, il y a de la musique, on danse, on s'amuse, qu'on ne travaille pas, et qu'on s'imagine qu'on va pouvoir rentrer dans ce grand jardin que possèdent les acteurs et le cinéma, bon, je connaissais personne, j'avais aucune relation, et c'est Pierre Lhomme, qui est un grand chef opérateur aujourd'hui, qui m'a introduit un peu dans ce monde, en me présentant Suzanne de Troyes, qui était la monteuse de Pagnol et de Renoir, et Jean Vienner, que j'ai connu quand j'avais 20 ans. Et tout d'un coup, j'ai rencontré Marcel Aimé grâce à Judith Magre, j'ai rencontré Boris Vian grâce à Virginie Vitry, Albert Camus grâce à Virginie Vitry, et puis Marlène Dietrich grâce à Sacha Briquet, et puis Cocteau grâce à Jeanne Moreau. Donc tout d'un coup, quand on a 20 ans et qu'on voit de pareilles personnalités, à la fois intelligentes, qui vous faisaient l'élégance de vous faire croire que vous étiez aussi intelligent qu'eux, parce que Cocteau, c'était ça. On parlait avec lui, on avait l'impression de tout comprendre ce qu'il disait, et qu'on était très intelligent comme lui. Évidemment, c'était pas tout à fait vrai, mais enfin, j'avais l'impression. Donc c'était bien, et puis j'étais quelqu'un de joyeux. J'étais quelqu'un de très optimiste. Et quand j'avais des problèmes, comme tous les jeunes gens qui n'ont pas d'argent, qui travaillent en faisant tous les métiers du monde pour pouvoir survivre, ben j'arrivais, j'étais assez élégant comme ça, je me plaignais jamais. Et quand je sentais que je pesais un petit peu, j'avais le courage de partir. Je crois que c'est ça aussi de pourquoi j'ai été ami avec tous ces gens qui me trouvaient rigolo.
Pierre Lhomme lui avait aussi présenté la bande des cahiers pendant une perme lors de son service militaire. Et il avait réussi à attirer l'attention de tous ces jeunes hommes qui ne lui adressaient pas la parole en faisant un numéro d'imitation éblouissant. Il retrouve donc à Paris Rivette, Godard, Chabrol et Truffaut qui décident de faire son éducation cinématographique en l'emmenant à la Cinémathèque et en payant sa place puisqu'il n'a pas une thune. En échange, il doit les faire rire ou tenir des paris. Quand ils refont le monde du cinéma et pestent contre le cinéma français de l'époque qu'ils trouvent poussiéreux, il est là. Il ne donne pas son avis, mais il fait le clown. Et ils lui promettent que s'il passe derrière la caméra, il sera leur acteur.
D'abord, ils m'ont méprisé totalement. Je voulais être acteur, je leur disais que je voulais être acteur, ils m'ont même pas parlé. Et je me suis dit, ça y est, c'est
aucun,
comme... Aucun. Ah, mais rien, enfin gentil, comme ça, en me disant, toi tu te tais, quoi.
C'est mal vous connaître.
Non, oui. Non, parce que comme Alfred Hitchcock avait déclaré, les acteurs sont du bétail, je me dis, ça y est, je suis un beau veau, là, qui s'en va avec des intellectuels. Ils étaient drôles, très, très, très énervés, très passionnés par le cinéma. Et puis, bien entendu, au retour, j'ai fait mon numéro, j'ai dansé, j'ai chanté, j'ai tout fait pour les charmer. Et ils m'ont adopté. Donc, j'ai fait des films en 8 mm, des films en 16 mm et des films en 35 mm. Et nous avons commencé avec Le Coup du Berger, qu'a réalisé Jacques Rivette, que produisait Claude Chabrol. Et puis après, j'ai fait Tous les garçons s'appellent Patrick avec Godard. J'ai fait la sonate à Creuser avec Romer. C'était des courts-métrages. Et Histoire d'eau avec Truffaut.
Truffaut, qui entretient des relations d'amitié avec de grands cinéastes comme Max Ophuls ou Jean Renoir, lui écrit des lettres de recommandation auprès de ces grands hommes. C'est ainsi, par exemple, que Jean-Claude se retrouve stagiaire sur French Cancan de Jean Renoir. Et puis, à la fin 1956, Jacques Rivette lui demande donc de jouer dans Le Coup du Berger. Ce court-métrage, co-signé Rivette, Chabrol et Charles Beach, dont le titre vient d'un coup aux échecs, repose sur un canevas classique d'adultère, mais sa mise en scène est loin d'être classique. Il sera considéré comme le premier film officiel de la Nouvelle Vague. Jean-Claude Brialy y incarne l'amant, un bellâtre, lâche et charmeur, et Jean-Luc Godard y apparaît. Après ce film emblématique, où il se trouve très mauvais, Brialy tourne donc avec Romer la sonate de Kreutzer, puis avec Godard, un court-métrage au titre délicieux, Tous les garçons s'appellent Patrick, un truc improvisé dans les jardins du Luxembourg où, pour seul scénario, Godard sortait de ses poches des bouts de papier avec des idées et des dialogues dessus, disant à Brioli « Tiens, tu pourrais dire ça.
» Vous... Ouf, là, ben, j'ai eu la trouille. Hein. Hey. Vous avez tort de lire avec le bout du nez. Vous avez de très très jolis yeux et ça va les abîmer. Allez, je vous prête mes lunettes noires. Ça vous irait patamment, vous savez. Je vous offre un verre, on va là-bas, sous les arbres, à l'abri. Venez. Vous savez qui a eu l'idée le premier de planter des arbres dans Paris? Eh ben, c'est Henri IV. Alors, on y va? Alors quoi, on y va? Ça a l'air intéressant, ce que vous lisez là. Oh, de l'anglais. Je vous prenais pour une française.
Si, si.
Do you speak English? Ah, suédoise. Jagelskardig? Ça veut dire je vous aime. Oui, hein. Je vais un peu vite, mais c'est tout ce que je sais. Norvégienne? Finlandaise? Ah, allemande, oui. Deutsche Sprache? Non, pas espagnol. Japonaise. Oui. Mizukushi Kurosawa. Ouais, mais vous n'êtes pas japonaise? Ah, vous voyez. Rien à faire, la vache. Vous devez me trouver en bel temps, hein, mais c'est pas volé. Non, non, non. Quand on parle de tout ça, on dit que des âneries.
Claude Chabrol a écrit le scénario des Cousins en une nuit. et un des rôles du film, celui de Paul, en pensant à Jean-Claude et à ses imitations d'Eric Van Stroheim. Quand il lui parle du film Au bistrot, Chabrol écrit sur la nappe « Moi, Claude Chabrol, le meilleur metteur en scène du monde, engage Jean-Claude Brialy, le meilleur acteur du monde, pour tourner Les Cousins. » Et tous les deux signent cette jolie forme de contrat. Mais Chabrol ne trouve pas de financement pour le film. Pas grave, il est déjà parti sur une autre idée, le beau Serge, qu'il va tourner dans la Creuse, dans la maison de ses grands-parents. L'histoire du rat des villes et du rat des champs, où François, atteint de tuberculose, qui retourne dans son village de Sardan dans la Creuse après des années d'absence, y retrouve son ami Serge, devenu alcoolique.
Serge !
Eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Tu te caches maintenant ?
Presque. Non, je voulais te parler.
Eh ben, parle-moi.
En parole, t'es pas sous ?
Pas encore.
Écoute, il y a eu un malentendu entre nous.
Malentendu ?
Oui, je pense... Je crois que j'ai été maladroit.
Bon, pauvre François. En tout cas, toi, t'as pas changé. Viens à la maison.
Non, 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 non. Bon, j'aime mieux qu'on se promène un peu en parlant.
Si ça peut te faire plaisir. Dis-moi, Yvonne, tu l'aimes pas, hein ? Hein ?
Grâce au succès du beau Serge, Chabrol pourra tourner Les Cousins un an plus tard. À l'époque, Jean-Claude Brialy habite chez Gérard Blin, son partenaire, et ils répètent leurs textes ensemble. C'est l'histoire cette fois de Charles, un petit provincial timide, qui débarque chez son cousin Paul, noceur et cynique, à Paris. Diabolique ce Paul. Et quel grand acteur ce Brialy.
20 ans. Bon. Raisonnons. Tu veux l'aimer. Bah, supposons que tu y arrives. Lui, de son côté, il t'adore. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous mettez en ménage ? Chez toi ? Pour que je vous foute la paix ? Lui, il bossera comme un dur, quand c'est un gros bûcheur, je le connais. Toi, pendant 15 jours, tu feras le ménage. En admettant même que tu trouves quelqu'un pour le faire à ta place, tu resteras pendant 15 jours au lit et puis tu liras. Et c'est lui qui te choisira, t'es lecture. Le samedi soir, vous irez au cinéma. Le dimanche après-midi, je viendrai vous voir et je vous inviterai à aller boire un pot. Mais il refusera. Il aura du travail et toi, tu voudras rester avec lui. Mais je te connais! Tu pourras pas t'empêcher de prendre une figure de martyr. Et puis moi, je pourrais pas m'empêcher de rigoler. C'est vrai tout ce que je te dis là. Ah, puis j'ai oublié la maman. Qu'est-ce qu'elle va dire, la maman? Parce qu'il n'osera pas lui écrire. Et t'es incapable de mentir, Charles. Quand on était petit, je lui fauchais ses billes. Puis alors lui, il me faisait la morale. Alors remarque, attention, un bon garçon. Un chic type. Mais enfin, Florence, tâchons d'être lucide, hein? Donc, physiquement, il est bien. Il est même très bien. Il est plus costaud qu'il n'en a l'air. Puis il est loin d'être bête. Je le rends même hommage à certaines qualités de son esprit. Mais enfin, vous n'êtes pas fait du tout pour vous entendre. C'est ça que tu ne veux pas comprendre.
Le tournage est toujours aussi idyllique avec Chabrol. Il y a juste du frottement à la fin. En effet, Chabrol a écrit deux fins aux cousins. Une gaie et une triste. Et il décide de tourner la gaie. Gérard Blin et Brialy ne sont pas d'accord. Ils trouvent la fin tragique, nettement plus romantique. Ils harcèlent Chabrol jusqu'à ce qu'il la tourne. Comme ils eurent raison. Ce coup de fusil, mortel, qui part, reste un des grands moments du cinéma français. Et le film obtint l'Ours d'Or au Festival de Berlin.
On fumait des fumait des gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Ah, ah, les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison. Au café du bas de l'Aisne, parfois je voyais Verlaine. Ah, 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 les beaux jours. Et Rimbaud qui voyageait au-dessus des printemps nous disait du haut de ses nuages d'où venait le vent. Air pleine s'installait à la présidence car les anciens rois du monde venaient d'interdire la danse. Plus de boutique à music hall au boulevard du rock'n'roll. Ah, les beaux jours. Le temps a passé, court-circuité les amplis. Bruno maintenant joue de l'accordéon dans les rues du Clichy. Arrivait juste à temps pour la révolution. On fumait des gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Ah, ah, les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons voir si les fleurs du mal poussaient encore en cette saison.
C'était Clou, les Gauloises bleues.
France Inter. On se fait des films. Guillemette Odissino.
On se fait des films de Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy qui a déjà tourné Le Beau Serge de Claude Chabrol, qui a déjà tourné Les Cousins. Et alors justement, le soir de la première des Cousins sur les Champs-Élysées, Brialy joue au théâtre. Alors, il envoie un espion.
Donc la première avait lieu au Colisée, je suis descendu les Champs-Élysées pour voir l'affiche, tout ça, vous savez, c'est impressionnant de voir son nom en gros, comme on voit celui de Gabin. Ou
sauf qu'il est éteint, le nom.
Et le mien a été éteint, alors je suis rentré dans le cinéma, on m'a dit qui c'est que vous êtes qui, vous. J'ai dit, je suis Jean-Claude Brialy, et alors, je dis, mais attendez monsieur, moi je tourne dans le film, et pourquoi mon nom est éteint, celui de Gérard Blin est allumé, et le mien est éteint. Alors, il me dit, c'est rien, c'est un faux circuit, j'ai dit, il faut l'arranger tout de suite. Alors ils m'ont rebranché, si j'ose dire, et puis bon, comme je pouvais pas aller à la première, parce que je jouais au théâtre, j'ai envoyé un copain et je lui ai dit, écoute, va voir le film et puis tu reviens, tu fais l'espion. Et puis comme le film va se terminer à 10h30, au théâtre on finissait à 11h, tu viens vite me raconter comment ça s'est passé. Alors à 11h moins le quart, dans la fenêtre du décor, aux yeux de tous, j'ai vu mon copain qui était complètement fou parce qu'il me disait... T'es une vedette, ma poule, t'es une vedette, ma poule. Et ce copain, c'était Alain Delon, qui ne faisait pas encore ce métier.
Alain Delon, en effet, ne fait pas encore cinéma. L'année précédente, Brialy l'a rencontré au Festival de Cannes, certes, mais le jeune Alain était juste là pour faire la fête et aller à la plage. Et c'est d'ailleurs sur une plage qu'ils ont sympathisé. Puis, ils ont sillonné la Côte d'Azur au volant de la petite décapotable que la comédienne Brigitte Aubert a prêtée à Delon, car il vit avec elle à Paris. Alain, qui de retour à Paris, demande conseil à Jean-Claude, quelques temps plus tard. Doit-il tourner dans Christine, de Pierre Gaspard VIII, avec une jeune star viennoise, une certaine Romy Schneider, qui l'a choisie sur photo. Delon n'est pas très chaud pour se rendre au casting. Il demande à Jean-Claude de l'accompagner, et puis en plus, lui dit-il, il y a un rôle pour lui dans le scénario. Ce sera la naissance d'une passion entre Alain et Romy, avec Jean-Claude qui tient la chandelle et traduit leurs échanges amoureux, puisque Romy ne parle pas un mot de français et Alain pas un mot d'allemand. Romy, qui toute sa vie appellera Jean-Claude papa. Dans le genre grande rencontre, il y a aussi cette actrice délicieuse de 40 ans, mais fraîche comme la rosée du matin, et qui deviendra une des grandes admirations et une des grandes amies de Brialy, Danielle Darrieux. Grâce à Denis de la Patellière, il joue son jeune amant dans Les yeux de l'amour.
Ça sent bon. Sans des fleurs?
Oui. Tenez. Je les ai cueillies pour la maison, mais je peux vous en laisser quelques-unes si ça vous fait plaisir.
Prêt.
Ça, ce sont des marguerites.
Ça sent des roses.
Vous êtes piqué.
J'en sais rien.
Là, ce sont des dahlias.
Ça, c'est Jeanne. Je me doutais que vous étiez très belle. C'était certain, c'était forcé.
Oh, laissez-moi, je vous en prie.
Ne partez pas. Ne partez pas tout de suite. Je vous dirai tout ce que vous voudrez, que vous êtes naine et bossue, que votre peau est rêche, que vos lèvres sont pincées comme celles des femmes méchantes, que votre corps est détestable à toucher, que je ne vous aime pas.
Brialy tourne en Italie, ce qui se traduit, comme toujours avec lui, par des rencontres incroyables, telles que celle de Pasolini. Ah oui, entre-temps, il a aussi présenté François Truffaut à Jeanne Moreau. Brialy, en fait, avait deux métiers, comédien et bonne fée. Une bonne fée pas très raisonnable. Pendant le tournage du Beau Serge, en effet, il s'était cassé deux vertèbres et ne s'était pas fait soigner. Ce qui ne l'empêche pas, pour revenir d'Italie, de faire 1000 bornes dans une petite décapotable dont les suspensions sont complètement pourries. À l'arrivée, il a deux vertèbres tassées et le médecin lui annonce qu'il pourrait finir paralysé des deux jambes. Il sera immobilisé à l'hôpital avec une coque en plâtre pendant 2 mois, puis alité 5 mois chez lui, avec évidemment le tout Paris qui lui rend visite, y compris Jacques Brel, qui débarque avec sa guitare pour lui chanter « Ne me quitte pas » en concert privé. C'est aussi de son lit de douleur que Brialy achète, sans même le visiter, un château à 40 km de Paris, lui qui n'aimait pas la campagne, convaincu par ses amis qu'il va avoir besoin de bon air. Le château coûte 20 millions, il n'a pas l'argent. La banque lui prête la moitié. Chabrol, Truffaut, Godard et 2 autres de ses amis lui prêtent le reste. Montyon. Il va façonner ce petit château avec un parc en y mettant tous ses cachets de cinéma pendant 15 ans. Et c'est là qu'il accueillera Romy pendant 6 mois, quand elle voudra s'isoler du monde et des journalistes, après son drame, la mort de son fils David. C'est pendant sa convalescence aussi qu'il reçoit un coup de fil de Godard pour Une femme est une femme. Godard lui annonce que ses partenaires seront Belmondo et Brigitte Bardot. Et puis finalement, ce sera Anna Karina, une inconnue dont Godard est tombé follement amoureux. Le tournage, toujours improvisé, se déroulera au gré de leurs disputes et de leur réconciliation. Godard ignore totalement Belmondo et Brialy sur le tournage, ne leur dit même pas bonjour le matin en arrivant sur le plateau. Il n'a d'yeux que pour Anna. Dans le film, dans cette merveille de film qui n'a pas pris l'ombre d'une ride, Jean-Claude joue son mari.
Tu préfères manger du poisson ou de la viande potinée? Émile!
Du poisson.
Et qu'est-ce que tu aurais préféré si tu avais voulu de la viande?
Je sais pas, du veau.
Et si tu avais voulu du bœuf au lieu de veau? Tu aurais choisi un beefsteak ou un rôti?
Moi, un beefsteak.
Et si tu m'avais dit rôti, tu l'aurais aimé bien cuit ou très saignant?
Très saignant.
Eh bien, mon chéri, tu n'as pas de veine parce que justement, mon rôti de bœuf est un peu trop cuit. suis fâchée?
Non, on va pas se disputer pour ça.
Dommage.
Un peu de cambriole et de gentleman. En 1962, Brialy tourne Arsène Lupin contre Arsène Lupin, d'Edouard Molinaro, avec Jean-Pierre Cassel et Françoise d'Orléac. Difficile de faire un trio plus chic et séduisant.
Bonjour, c'est gentil d'être venu me dire au revoir.
Gérard a disparu.
Parfait, alors je vous enlève, vous partez avec moi. Sans bagages, sans passeport, sans rien, on revient dans 15 jours mariés ou même divorcés si on s'aperçoit qu'on s'est trompé.
Ne riez pas, c'est grave. Gérard a disparu avec Catherine et son frère. On exige une rançon, vous savez laquelle?
Décidément, vous ne pensez qu'à Gérard.
Mais je pense à vous aussi, puisque c'est vous que j'appelle au secours.
Je regrette, mais je dois me trouver à New York lundi prochain. Nous parlerons de tout ça à mon retour, hein?
Mais c'est une question d'heures, de minutes peut-être. Vous oubliez que Gérard est votre frère.
Mais c'est justement ce que je ne lui pardonne pas.
Il vous a sauvé la vie.
Oui, mais m'a enfermé avec deux vaches.
François, je m'étais fait une autre idée de vous. Je pensais que vous seriez généreux, comme Lupin.
Oh, j'ai horreur des mouchoirs.
Vous êtes un monstre!
Puis, toujours avec Jean-Pierre Cassel, Brialy enchaîne avec un monsieur de compagnie. Mais cette fois, aux côtés de la sœur de Françoise, Catherine Deneuve. Le tout au rythme de comédie élégante et insouciante de Philippe de Broca.
Oh, je comprends votre inquiétude, mais je ne suis pas fou, vous savez.
Ah non, mais papa, une seconde.
Je vais vous expliquer, voilà, c'est très simple. Je suis très riche, je porte un grand nom. Moi aussi, n'ai-je pas d'amis, je suis seul, je m'ennuie. Depuis la mort de ma pauvre grand-tante, tous les samedis, je fais dresser un grand buffet. Je mets mon magnétophone en marche, j'ouvre les fenêtres. Vous êtes le premier papillon pris à mon piège sonore.
Ravissant. Vous dansez?
Et vous?
Non, non, les femmes me font peur.
Vous préférez les locomotives? Je cherche depuis 10 ans le wagon-restaurant du Transsibérien que je viens d'admirer dans votre vitrine. Ah, vous êtes amateur?
Non, non, modeste collectionneur sans plus. Un cigare?
Ah, vous fumez les mêmes cigares que moi, mais décidément, nous avons les mêmes goûts.
Très crypto-gay, cette conversation. Allez, Edouard Molinaro encore, et la rousse et piquante Françoise d'Orléac toujours. Dans un film qui est en train de devenir, vu son casting incroyable, le film le plus cité cet été dans notre émission. Le délicieux marivaudage, La chasse à l'homme. D'Edouard Molinaro, donc, où Jean-Claude se marre avec sa grande copine Françoise, qui, dans la vie, danse, rit. Sublime papillon de jour et de nuit avec sa voix rauque et ses caprices de belle fantasque.
Sandra, voulez-vous devenir ma femme?
Hein?
Voilà le genre de phrase qu'un homme ne devrait jamais prononcer.
Tenez, je vous aime.
Sandra.
Voilà un autre genre de phrase à ne pas dire. L'amour peut être à la rigueur une agréable façon de faire, mais c'est une insupportable façon de parler. C'est drôle. Vous êtes tellement différent des autres.
C'est drôle. J'ai l'impression de vous avoir toujours connu.
Chérie. Notre ère. Dérisoire, non?
Irrésistible.
Infantile.
Odieux. Mais nous, c'est autre chose.
Nous subissons le climat.
Nous voyageons intelligemment.
Rien ne va plus entre cette éternelle amoureuse qui se trouvait laide et son grand amour du moment, Jean-Pierre Cassel. Alors, Françoise d'Orléac et Jean-Claude Brialy se font une promesse. S'ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds chacun de leur côté, ils finiront par se marier, comme des copains qui rigolent bien ensemble. Françoise connaît très bien les préférences de Jean-Claude. Bah oui, Brialy aimait beaucoup les femmes, mais il préférait les garçons. C'était une époque où une carrière pouvait se briser si ce genre de choses était su. Et on peut même penser que Brialy aurait eu de plus grands rôles sans cette inclination. Mais les choses ont-elles vraiment changé? Quel grand acteur français aujourd'hui peut faire son coming out sans risquer de ne plus être bankable?
Vous évoquez l'homosexualité entre deux lignes en disant que c'était aussi une raison de conflit entre moi et mes parents.
Non, mes parents ne m'ont jamais parlé de l'homosexualité. D'abord parce qu'ils étaient d'une bourgeoisie, donc hypocrite. Donc il y avait une espèce de silence comme ça, de bienséance. Mais l'homosexualité n'a jamais été mon problème parce que je ne suis ni je n'ai ni eu honte, parce que je pense que quand il y a de l'amour, il y a jamais de problème. Donc quand j'ai été amoureux, je le faisais normalement, naturellement, et c'est surtout en province ou même à Paris, souvent les gens à l'époque, hein, plus maintenant, heureusement il y a eu beaucoup de choses avancées.
Encore un peu.
Mais moi, je me souviens, quand j'avais 18 ans, 20 ans, d'ailleurs, j'avais honte de d'entendre ce qu'on nous entendait. Tapette, pédé, une tante, bon, en parlant de Jean Marais ou de Jean Cocteau.
Avec elle, tout est possible. Est-ce qu'elle va seulement me reconnaître? Du rêve à la réalité, il y a une marge. Ouais, tout est possible. Elle peut aussi bien me trouver impossible. Avec les photographies, sait-on jamais. Avec elle, tout est possible. Pour moi, ça sera merveilleux la première fois. On se verra de moins en moins si je ne lui dis rien. Et cela me fera de plus en plus.
Tout serait possible, malgré que ce ne soit jamais bien la première fois. Ce serait sûrement pas mal, et puis de mieux en mieux. Après quoi ça irait de plus en plus mal.
Si elle me trouve impossible, encore que ce serait bien la première fois. J'aurais tant de chagrin. Chaque jour un peu plus, mon amour lui sera parfaitement égal.
Avec lui c'est impossible, on se quittera jamais bien la première fois. J'aurai tant de chagrin, et puis de moins en moins, jusqu'à ce que ça me soit complètement égal.
Jean-Claude Brialy, Anna Karina, Serge Gainsbourg, de plus en plus, de moins en moins.
On se fait des films sur France Inter.
Sur France Inter, on se fait des films de Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy, le roi de la légèreté, quand il tourne avec Françoise d'Orléac, avec Jean-Pierre Cassel. Avec Brialy, il est toujours difficile de parler de contre-emploi. Tant il ne cessa toute sa carrière, justement, de passer du charmant au très viril. Mais il y a tout de même ce film, méconnu, où un cinéaste lui fit un superbe cadeau. Dans Un homme de trop, Costa Gavras l'imagine dans le rôle d'un résistant sec et autoritaire, un personnage très complexe, au centre d'un casting sublime. Charles Vanel, Bruno Kremer, Jean-Louis Trintignant, Jacques Perrin, Claude Brasseur et Michel Piccoli.
Maintenant, tu vas nous dire qui tu es.
Et ce que tu faisais avec les condamnés à mort.
Et des bottes de nazis.
Je t'attendais.
Quoi?
J'attendais le matin.
Le matin.
On attend toujours le matin en prison.
Depuis quand?
De nuit.
C'est ça, et tu savais qu'on allait venir.
Pourquoi on t'a condamné? On m'a pris sans papier.
C'est pas assez pour te condamner à mort.
Aussi à coup des bottes.
On met la réponse à tout.
Ça venait pas que je ne me croie.
Depuis quand t'as pas de papier?
Je sais pas, j'ai plus de papier depuis la débâcle.
Non mais il se fout de nous, hein. Tout le monde peut avoir 3 ou 4 fausses cartes. Et les bottes, tu les as piquées sur un cadavre allemand, dis.
Pas du tout, un Allemand qui se baignait dans une rivière.
Et après?
Ben, dans la montagne, je suis tombé sur une patrouille, ils ont vu les bottes.
Ils t'ont pris pour un héros.
Possible.
Quoi, moi, je te dirais pas pour une paire de bottes ou pour être un héros.
Pourquoi c'est ta religion qui te défend?
Oh, vous savez, la religion en ce moment, elle est plutôt souple.
Mais qu'est-ce que tu faisais dans la montagne?
Je vais chez les paysans.
Quand tu trouves des cheveux qui se baignent, tu rencontres des patrouilles et t'es jamais tombé sur un maquisard.
Non, jamais.
Non, mais tu sais qu'ils sont dans la montagne.
Et tout le monde
et
le sait.
Et quand ils sont en prison, tu t'y trouves aussi.
Mais je suis pas un indicateur. D'abord, la guerre, ça m'intéresse pas.
Bonne excuse.
Mais c'est pas une excuse, c'est une explication. C'est pas parce que vous faites la guerre.
Jean, t'as pas le droit de faire ça. Non, je suis dans les sentiments de la sécurité. Mais vous êtes pire que les nazis. T'as pas le droit de faire ça.
C'est fou, au vu de son statut Nouvelle Vague, mais c'est ainsi. Jean-Claude Brialy n'a tourné que dans un seul long métrage de François Truffaut, La mariée était en noir. La mariée, Jeanne Moreau, est d'abord en blanc, radieuse sur le parvis de l'église. Un coup de feu tue son époux. Alors Julie Kohler se met à porter le noir et décide de se venger des cinq hommes responsables du décès de l'homme qu'elle aimait. Brialy incarne Corée, témoin d'un autre futur mariage et qui sera témoin surtout de la vengeance, identifiant Julie, mais trop tard, grâce à un geste, de l'eau dans un vase.
Salut.
Salut.
Vous avez réveillé, non?
Non, enfin ça fait rien, il fallait que je me lève.
Alors quoi de neuf?
Pas rien de spécial.
Ah, j'espérais que vous me répondriez à Gilberte.
Je comprends pas.
Bah, c'est bien simple, question quoi de neuf, réponse Gilberte. Bah, elle vient dit qu'elle est toute neuve, non?
Oh là là, dites donc vous, jamais la nuit?
Alors, c'est ce soir qu'on vous passe la corde au cou? Dites-donc, et ça? Hein? Faut tâcher de le faire disparaître avant que Gilberte le découvre.
Vous tombez mal, j'ai une vie de moine depuis que j'ai rompu avec la femme de Bujol. Je donne plus signe de vie à la petite Annie, c'est un autre homme que Gilberte va épouser.
Moi, je reste fidèle à ma devise, je cours après personne, mais je laisse rien passer. Et justement, je voulais demander à Gilberte de me choisir une demoiselle d'honneur qui soit pas trop... Enfin, qui soit assez... Enfin, vous voyez...
Écoutez, mon vieux, ça tente de vous calmer. Quand on en a vu une, on les a toutes vues. C'est vous qui m'avez appris ça.
Quand même, on veut les voir toutes, c'est ça le problème.
Les femmes, c'est bien joli, mais vous serez bien obligé de vous arrêter un jour, avec l'âge.
Oh, ce jour-là, c'est très simple, j'ai souvent pensé.
La solution Hemingway, vous connaissez?
Grosse parenthèse théâtrale, avec ce qui restera l'un de ses plus gros succès à la scène. La puce à l'oreille de Georges Feydeau, mise en scène de Jacques Charon au Théâtre Marigny, que Brialy jouera en tout plus de 600 fois, puis 100 fois en tournée province. C'est pendant qu'il joue la pièce qu'il reçoit un coup de téléphone d'Éric Rohmer. « J'ai envie de tourner un film avec toi. Cela ne t'embête pas de tourner au bord d'un lac ?»« Bien sûr, c'est quoi le sujet ?»« Je ne sais pas encore, mais je voulais juste savoir si tu me donnais ton accord de principe. Laisse-moi un an pour écrire le film. » Quelques mois plus tard, le cinéaste le rappelle. Il va d'abord tourner « Ma nuit chez Maud » avec Jean-Louis Trintignant, mais aimerait lui parler tout de même du Genou de Claire. Brialy lui propose de venir au théâtre. Le jour venu, pas de Rohmer. En fait, il s'est trompé de loge, est entré dans celle de Françoise Fabian, qui joue aussi dans « La puce à l'oreille », l'a engagé pour « Ma nuit chez Maud » et est reparti. À la fin du tournage de « Ma nuit chez Maud », Rohmer fit enfin lire le scénario à Brialy qui découvrit son rôle, superbe, avec de magnifiques monologues en forme d'études sur le désir. La production en fait voulait imposer un autre acteur, mais Rohmer tint bon. L'un des plus beaux rôles de Jean-Claude, que ce Jérôme, attaché d'ambassade avec une belle barbe, qui vient passer quelques jours dans la région d'Annecy et s'entiche d'une jeune fille, Claire.
En général, on me dispense de faire le premier pas. Je n'ai jamais poursuivi une fille que je ne sentais favorable d'emblée.
Et celle-ci?
Bah, écoute, celle-ci, c'est très bizarre. Elle provoque en moi un désir certain, mais sans but. Et d'autant plus fort qu'il est sans but. Un pur désir. Un désir de rien. Je ne veux rien faire, mais le fait d'éprouver ce désir me gêne. Je ne croyais plus trouver aucune femme désirable. Et puis je ne veux pas d'elle. Même si elle se précipitait dans mes bras, je la repousserais.
Jalousie.
Non, non, non. Et même si je ne veux pas d'elle, j'ai l'impression d'avoir comme un droit sur elle. Un droit qui naît de la force même de mon désir. C'est un sentiment que j'avais éprouvé autrefois et que je retrouve tout à coup très vif aujourd'hui. Le trouble qu'elle provoque en moi me donne comme un droit sur elle. Tu sais, suis convaincu de la mériter mieux que quiconque. Tu vois, hier, par exemple, au tennis. Eh bien, je regardais les amoureux et je me disais que dans toute femme, il y a un point plus vulnérable. Pour les unes, c'est la naissance du cou, la taille, les mains. Pour Claire, dans cette position, dans cet éclairage, c'était le genou. C'était le pôle magnétique de mon désir. Le point précis où, s'il m'était permis de suivre ce désir, de ne suivre que lui, j'aurais d'abord placé ma main. Or, c'est là que son petit ami avait placé la sienne. En toute innocence, en toute bêtise. Cette main, avant tout, était bête. Et ça me choquait.
Mais c'est facile. Mets la main sur son genou. Voilà l'exorcisme.
Mais non, tu te trompes. C'est la chose la plus difficile. Une caresse doit être consentie. Moins dur serait de la séduire.
C'est marrant. On vous a raconté la genèse du film Le genou de Claire, d'après Brialy, dans son livre de souvenirs Le ruisseau des singes. Mais Romer, lui, n'avait pas la même version de l'histoire. Brialy, il faut dire, était aussi un grand comédien de sa propre vie.
Alors, Brialy, j'ai peu tourné avec lui, mais j'ai écrit un petit article écologique où j'ai dit que c'est un acteur shakespearien. Oui, effectivement, je trouve qu'il était trop cantonné ou bien dans un rôle de bouffon, ou bien dans un rôle de personnage antipathique. Et qu'au contraire, c'est un personnage qui peut être très sympathique, comme dans son premier film, qui était le film de Chabrol, qui s'appelait Le Beau Serge, comme dans une série de télévision qui est, bon, banale, mais dans laquelle il est très émouvant, qui s'appelle Le Gendarme. J'étais attaché. Ça m'a attaché, cette histoire, parce que je le trouve très remarquable. Je regrette de ne pas l'avoir employé plus souvent, mais enfin, bon, c'est comme ça. Quand je préparais ma nuit chez Maud, je l'ai croisé dans les couloirs du théâtre Marigny, où j'allais voir François Fabian pour lui apporter mon scénario, et il me dit « Bonjour, est-ce que tu me prends pour ce film ?» Je ne sais pas quoi. Et je lui dis « Non, pas pour celui-là, mais pour le prochain. » Mais à ce moment-là, je n'avais pas pensé à lui. Et là, en éclair, je me suis engagé envers lui parce que je n'aime pas revenir sur ma parole. Et c'est lui qui a joué dans notre clair. C'est une décision sur le moment. J'ai beaucoup de décisions sur le moment dans mes films.
J'ai pas su la retenir.
Je n'avais qu'un seul mot à lui dire.
Je t'aime. Alors peut-être, qui sait?
On n'a pas résisté à mettre ce petit morceau de un seul mot à lui dire, d'autant que nous, on aura beaucoup d'autres mots à dire sur Jean-Claude demain. Cette émission a été préparée par Lorraine Bess, Clara Marliot, Isabelle Olivier, à la technique Nicolas Slimani, à la réalisation Étienne Bertin et à la programmation musicale Muriel Pérez.